Maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire deux passages un petit peu parallèles dans Exode 19 d'abord. On verra ensuite dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. On va parler aujourd'hui du sacerdoce universel des croyants, chose dont on ne parle pas assez souvent, je crois, dans les églises. On aura le temps un peu de se pencher là-dessus. Donc, premier texte dans Exode, chapitre 19, versets 5 à 6. Il est écrit au verset 5. « Maintenant, et c'est Dieu qui parle, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » On est encore sous l'ancienne alliance et c'est Dieu qui parle au peuple juif à ce moment-là. Et on va aller dans 1 Pierre chapitre 2, c'est carrément à l'autre bout de la Bible. 1 Pierre chapitre 2. Et on va lire les versets 4 à 10. Écrit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, et pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je pense que vous avez compris le lien entre les deux passages. Il y a un temps passé, puis il y a cette église aujourd'hui. Et j'imagine que chacun d'entre vous, en ce début d'année, à part être fatigué, vous avez pris le temps de faire des bonnes résolutions. Non ? Tout va bien, alors c'est que vous êtes parfait, vous n'avez plus rien changé dans votre vie. C'est formidable. Mais souvent, on prend beaucoup de résolutions pour nous-mêmes, mais pas forcément des résolutions selon Dieu. Et ça, c'est toute la différence. Nous, on sait où on voudrait changer, mais on oublie souvent de poser la question à Dieu, qu'est-ce que toi, tu voudrais que je change dans ma vie? Et peut-être prendre conscience, justement, de ce sacerdoce, si on va le faire ce matin, c'est peut-être quelque chose qui peut changer ma vie chrétienne complètement. La Bible nous rappelle que nous sommes des pierres vivantes, pas des pierres mortes, mais vivantes. Et quelque part, elle nous parle là de notre identité en Jésus-Christ. Elle dit aussi qu'on forme une maison spirituelle, et donc, quelque part, un sacerdoce, je vais expliquer ce que c'est. Et cette maison a un objectif, dedans il y a des sacrificateurs, et ces sacrificateurs, c'est-à-dire nous aujourd'hui, nous sommes là pour nous offrir à Dieu et pour le servir. Et on va en reparler. Voilà ce que nous sommes en fait, et ce que Dieu veut pour nous. Dieu a fait des très bonnes résolutions pour nous cette année. Le problème c'est, est-ce qu'on les entend? Ça c'est la grande question. Et qu'est-ce qu'on va en faire aussi? Donc on va parler un peu de ce sacerdoce, et on va commencer par cette maison spirituelle, puisque Pierre nous en parle, hein. Alors cette doctrine, enfin le mot sacerdoce, ça veut dire fonction d'un sacrificateur, corps sacerdotal. Quand Dieu me dit que je suis un sacrificateur pour lui, ça veut dire que j'ai une fonction, que j'ai un travail pour lui. Et qu'en même temps, tous ces sacrificateurs forment une maison spirituelle, comme c'était autrefois. L'expression sacerdoce universel des croyants, vous ne le trouverez jamais dans la Bible. Mais on peut en déduire la doctrine. Cette expression a été forgée, pour ceux qui aiment l'histoire, par Luther en 1520, quand il avait écrit un livre à l'époque, et elle va être reprise par les réformateurs. Mais le problème, c'est que souvent, on parle de l'Église, mais on ne la voit jamais comme ce sacerdoce. Quand on est dans l'Ancien Testament, on se souvient des sacrificateurs qui servaient tous les jours au temple, ou dans le tabernacle encore plus anciennement, et on voit qu'ils étaient tout le temps au travail pour Dieu. Et là, on se dit, c'est très bien, ils travaillaient tout le temps pour Dieu. Mais en fait, ce qu'il est en train de nous dire, Pierre, c'est que c'est exactement valable pour nous aujourd'hui. On ne fait plus des sacrifices comme à l'époque, mais le même service est demandé normalement aux chrétiens. Donc cette doctrine du sacerdoce se fonde sur le Nouveau Testament, en particulier par rapport aux croyants, puisque les croyants sont appelés aussi des prêtres. Alors j'aime pas ce mot parce qu'on a l'impression qu'on est catholique, mais c'est le mot, en fait, hein, prêtre, ça veut dire sacrificateur, tout simplement. On l'a détourné, hein. Les catholiques l'ont détourné. Mais ce mot sacrificateur est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus. Jésus était le souverain sacrificateur. Il en parle à des juifs parce qu'eux avaient un sacerdoce à ce moment-là, mais il en parle aussi pour les croyants. Nous sommes des sacrificateurs pour Jésus-Christ. Hein. Autrefois, ces sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient une espèce de médiation entre Dieu et les hommes, puisqu'on venait chez eux pour offrir des sacrifices, et puis Dieu les agréait selon le péché qu'on avait fait. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est notre médiateur. On n'a pas besoin d'être médiateur avec Dieu. Mais quelque part, nous avons quand même encore un rôle à jouer en tant que sacrificateur, et c'est Pierre qui nous le rappelle. Ce que je trouve intéressant chez Pierre, c'est qu'il dit c'est un sacerdoce, mais en fait, on forme un peuple. Je ne sais pas si on a vraiment compris ça dans notre tête. Souvent, on va à l'église, on est peut-être une famille quelque part, mais on forme une famille, un corps sacerdotal. Comme autrefois, tous ces sacrificateurs étaient choisis, c'était les Lévites à l'époque, et dans cette famille, on pourrait dire, ils se mettaient à l'œuvre pour Dieu régulièrement, continuellement, en fait. Et Pierre nous dit simplement que nous sommes ce corps aujourd'hui, d'une autre manière. On ne va pas sacrifier des animaux. Mais nous sommes des croyants sacrificateurs pour offrir des sacrifices spirituels, comme dit Pierre. On ne va plus offrir des animaux, Jésus est mort, une fois pour toutes. Mais j'ai, moi en tant que chrétien, le rôle d'aller offrir des sacrifices spirituels. On va en parler tout à l'heure ce que c'est. Tous les chrétiens doivent accomplir normalement cette fonction. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé qu'aux responsables de l'Église, c'est réservé à tout le monde. S'il y a autrefois un chef sacrificateur, le souverain sacrificateur, il y avait aussi les autres sacrificateurs qui travaillaient régulièrement, continuellement dans le temple et dans le tabernacle. Et c'est ce que Pierre veut nous dire, tout simplement, que nous sommes ces gens-là aujourd'hui au travail. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Ce n'est pas une demi-responsabilité, ce n'est pas une moitié ou un quart de responsabilité. On est vraiment appelé à ce sacerdoce et Jésus est mort pour cela. Est-ce qu'on l'a compris ? Ou est-ce qu'on prend ça à la légère ? Dieu veut qu'on le serve, vraiment, à l'Église, pas dehors. Alors, il y a le témoignage, il y a ces choses-là. Mais comme autrefois, les sacrificateurs devaient venir jusqu'au temple, venir jusqu'au tabernacle, aujourd'hui, de la même manière, c'est à l'Église qu'on sert aussi le Seigneur. Il y a plein d'autres services, on va voir, autour de l'Église, mais c'est ici que l'on doit servir. On pourrait parler d'une investiture. Ma voix est forte. On pourrait parler d'une investiture des sacrificateurs, hein, parce que si vous lisez un peu l'Épître aux Hébreux, il va dire que Christ nous a élevés à la perfection. Aujourd'hui, vous êtes élevés à la perfection. Alors, ça a été dit pour Jésus-Christ parce que lui, il a offert le sacrifice parfait, mais ça a été dit pour les croyants aussi, dans Hébreux 10, 14, il dit « Car par une seule offrande, celle de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ». Quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il s'est passé quelque chose de tout à fait nouveau dans ma vie. En ce moment, j'étais sauvé, j'étais transformé, je suis né de nouveau, mais je me suis mis à disposition de Dieu. Et ça, on l'oublie bien souvent. On aime bien le salut, mais on oublie qu'on se met à disposition de Dieu, comme les sacrificateurs autrefois. Et comme, en plus, Christ m'a transformé en disant « il m'a élevé à la perfection », ça veut dire que je suis et disponible et capable de faire ce travail. Tout croyant est investi de ce sacerdoce. Comme Jésus autrefois, en tant que souverain sacrificateur, a accepté ce sacerdoce, cette mission, ce travail, et il l'a fait comment ? Imaginez Jésus à un moment qui est fatigué de cette foule et dire « Écoute, moi je ne vais pas aller jusqu'à la croix, j'en ai marre de mon sacerdoce, je vais aller regarder la télé tranquillement », ça n'existait pas à l'époque évidemment, mais bon, Jésus a obéi du début à la fin. Il a été investi d'un sacerdoce et il a obéi du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est que Hébreu nous dit que nous avons été investis du même sacerdoce. Alors, pas d'aller jusqu'à la croix, on a autre chose à faire, mais Dieu nous ordonne de le servir. Et ça, il faudrait que ça rentre dans notre cœur un jour. Pas, il nous propose de le servir. Parce qu'il m'a sauvé, il m'ordonne de mettre en pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance, comme dit Éphésiens pour nous. Et il faudrait qu'en ce début d'année, on puisse comprendre dans notre cœur qu'il me donne un ordre. Pas, c'est une option dans ma vie de chrétien. Je suis un sacrificateur. Il a payé cher pour cela. Et demande justement que je travaille pour lui maintenant. L'Église est une maison spirituelle, nous dit Pierre, un peuple qui travaille ensemble. pour célébrer Dieu. Pas chez moi ou ailleurs, ou je ne sais pas, ensemble, à travailler ensemble. Comme autrefois, ces sacrificateurs se réunissaient, il y avait plusieurs classes, donc il y avait un roulement, évidemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être toujours là non plus, mais il y avait un roulement régulier. Et ils étaient tous là à servir continuellement le Seigneur. Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Il aurait pu dire juste des pierres, comme ça aurait été réglé. Hein, on est des pierres, voilà, on est là, mais il dit vivantes. D'abord, je suis moi, cette pierre vivante. On pourrait la mettre au singulier. Et il dit une pierre précieuse. Vous avez déjà pris le temps de vous rendre compte que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vraiment précieux. Pas seulement dans le sens où il vous a racheté, mais précieux dans le service qu'il nous demande aujourd'hui. Parce que Dieu veut se servir de nous. Vous croyez que Dieu a besoin de nous? Il n'a pas besoin de nous. Mais il se plaît, et parce qu'il nous voit précieux, à dire, Emmanuel, j'ai besoin de toi, et j'aimerais te mettre au travail. Chaque croyant, nous dit Hébreux aussi, peut s'approcher directement de Dieu aujourd'hui. Avant, il fallait passer par le tabernacle, il fallait passer par certaines... Aujourd'hui, je peux m'approcher de Dieu comme cela, au travers de Jésus-Christ, hein, qui est la pierre vivante par excellence. Jésus est mort, a souffert pour que moi, je devienne cette pierre un jour, et que je prenne conscience de ma mission, de mon sacerdoce. Je suis né de nouveau pour devenir une pierre vivante. Et dans 2 Pierre 1, verset 4, il dit qu'on est de la même nature que Jésus-Christ. Il dit... lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine, formidable quand même, hein, quand on y réfléchit. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, etc. J'intègre la famille divine, on pourrait dire, entre guillemets. Je fais partie de cette famille aujourd'hui, et j'ai un sacerdoce à mettre au service de Dieu. Ça, c'est pour moi en tant qu'individu. Mais il dit des pierres, donc ça veut dire qu'il parle à toute l'Église, là. Tous les croyants sont des pierres vivantes. Et chacun d'entre vous, vous constituez la maison spirituelle, le temple de Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 3,16. Une maison constituée de pierres qui est là pour chacune consolider l'édifice. On a besoin de chacun d'entre nous. Autrement, l'édifice est fragile. Et il dit surtout des pierres vivantes, c'est-à-dire des pierres qui sont actives, présentes. Des fois, j'ai l'impression que l'Église a étréchi, il manque la moitié des pierres. Il y a des courants d'air. Hein, parce qu'on se dit que ce n'est pas tellement important. On n'a peut-être pas compris le sacerdoce qu'on en a. Mais vous aimez vos maisons avec toutes les pierres, non? C'est pratique, quelque part. Ça aide. Et pourquoi moi, j'aimerais pas ma maison avec toutes les pierres? Chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, ou je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi vos maisons ont toutes les pierres et la mienne, ou celle de Dieu, parce que ce n'est pas la mienne, quelque part, n'a pas toutes ces pierres? Réfléchissez à ça. Sinon, un jour, Dieu va enlever quelques pierres chez vous et vous allez comprendre le problème. S'il le faisait, vous seriez content. Vous seriez râlé, non? Vous auriez froid, peut-être. Il y a peut-être des courants d'air dans notre église, des fois aussi. Parce que les pierres manquent. Parce qu'elles ne sont pas à leur place. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être là tout le temps. Ce n'est pas ça, mais on se comprend bien. Il y a quand même une certaine régularité dans le sacerdoce, si on l'étudie vraiment bien. Et dit des pierres vivantes avec des objectifs. Le premier, c'est de s'édifier mutuellement. Ah, je suis content, il n'y a pas que le pasteur qui doit édifier tout le monde. Ça ne pose pas que sur moi, pas que sur mes épaules. Mutuellement, chacun d'entre nous, nous pouvons encourager le voisin. Vous vous sentez capable? Ce serait bien qu'on s'arrête là et que vous dites à votre voisin quelque chose pour l'encourager. Bon, François, il est tout seul, il n'a pas de chance. Hein. Mais c'est le rôle de tous de s'encourager. Ce n'est pas qu'un petit nombre de fidèles. Souvent, dans l'Église, il y a toujours un petit groupe qui travaille. Alors que normalement, ça doit être toute l'Église qui se met au travail. C'est le sacerdoce de l'Église. Ils ont part au saint sacerdoce, comme dit Pierre, c'est-à-dire la vocation du peuple de Dieu. C'est vraiment la mission de chacun d'entre nous de prendre part à ce sacerdoce et à se mettre au travail. Et il dit, pour annoncer les vertus de celui qui les a sauvés, c'est-à-dire pour proclamer tout simplement les œuvres de Dieu. À nous-mêmes d'abord, parce que c'est bien de temps en temps que quelqu'un me dise « je suis content d'être sauvé ». J'aime bien, parce que François me le dit souvent. Bon, ça prend l'habitude, il faut que t'arrêtes. Mais ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui dit « Je suis heureux d'être enfant de Dieu, je suis heureux d'être sauvé. » Vous le dites, ça, aux autres? Oui, je vais à l'église, il faut se lever, je suis fatigué, j'en ai marre, il faut bosser demain pour certains qui reprennent. Hein. Mais voilà, on peut s'édifier comme cela les uns les autres. Envoyer un SMS, on a tellement de moyens aujourd'hui, hein, les Facebook, etc. Et il est dit pour offrir des victimes spirituelles, c'est-à-dire des louanges et des actions de grâce. Dans Hébreux 13, 15, il est dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Voilà ce qu'on doit faire. Louez le Seigneur, apportez des actions de grâce, adorez Dieu, confessez tout simplement son nom entre nous, mais aussi à quiconque veut bien entendre à l'extérieur. En fait, Pierre nous dit que c'est un service pratique, hein, pour assister les autres, pour encourager les autres. Mais si je ne suis pas là, comment je peux encourager l'autre si je ne suis jamais là? Je ne peux pas le faire. Comme les sacrificateurs autrefois travaillaient au tabernacle, hein, ces sacrificateurs ne se disaient pas « Bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie de venir ». Ils n'avaient pas le choix, en fait, parce qu'ils étaient sacrificateurs devant Jésus-Christ. Et donc, chacun à leur tour devait venir et servir au temple. Bon, après, quand ils étaient malades, hein, Dieu n'est pas non plus... Mais ils savaient qu'ils avaient une responsabilité et s'y tenaient. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous dit que nous sommes des sacrificateurs, qu'on doit apporter ces victimes spirituelles, et c'est à l'Église que ça se fait. On peut le faire à la maison, mais c'est à l'Église, c'est ce corps sacerdotal que Jésus a mis en place pour qu'on puisse le servir là-dedans. Il dit que c'est des pierres vivantes avec des responsabilités, d'abord concernant la personne de Dieu, parce que Dieu nous responsabilise de le louer, de l'adorer, pas juste de venir deux, trois prières et s'est balancé, mais de prendre le temps de réfléchir à qui est Dieu, parce qu'adorer Dieu, c'est prendre le temps de réfléchir qui il est, sa personne, sa grandeur, sa majesté. Et quand j'ai compris tout cela, forcément, ça me donne envie de le louer et de l'adorer. Première responsabilité, donc, adorer la personne de Dieu. La deuxième, c'est concernant l'Église, le monde, puisqu'on a un ministère, on pourrait dire, d'ambassadeur, et d'apporter la bonne parole à quiconque veut bien l'entendre, non seulement nous édifier nous-mêmes, mais aussi évangéliser, apporter cette parole de réconciliation à ces gens qui ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Et puis la troisième, c'est l'intercession pour les croyants et pour le monde. 1 Timothée, d'autres passages, nous dit que l'Église, ensemble, doit prier pour tous ces sujets qui est le monde, qui est nos autorités, qui est peut-être les prisonniers, qui sont les missionnaires, nous-mêmes, etc., etc. Mais quand la maison a toutes ses pierres et qu'elle se met à vibrer avec la prière, alors là, ça va changer quelque chose. Là, j'en suis convaincu que les choses vont changer. Mais c'est ma responsabilité. Et cette année, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais continuer comme j'ai fait jusqu'à présent? Est-ce que j'ai envie que des choses changent dans ma vie? Est-ce que j'ai envie que des choses changent dans l'Église, s'améliorent? Ça dépend que de moi, en tant que pierre vivante. Et toutes les pierres vivantes, évidemment. Les croyants forment, comme dit Pierre, une famille de sacrificateurs, mais ils sont vivants. Vous êtes vivants? Vous êtes réveillés, là. Ouais. Est-ce qu'on est vivant ou on est des demi-morts, là, ou des demi-vivants, ou des zombies, des fois, en tant que chrétiens? On est des zombies, hein, des fois. Dieu nous veut vivants. Sacrificateur vivant, c'est quelqu'un qui se lève, qui va jusqu'au tabernacle, qui fait son service et qui rentre chez lui. C'est ça, être vivant. C'est pas en plein milieu, il va se dire « Oh non, je suis trop fatigué aujourd'hui, je vais rentrer. » J'ai pas envie de faire des sacrifices. Hein. C'est la même chose pour nous. Nous sommes vivants, actifs. On bouge pour le Seigneur. On s'endort pas pour lui. On est présent aussi pour le servir. Parce que si je ne suis pas présent, je ne peux pas le servir. Ce n'est pas possible. Si le sacrificateur à l'époque n'était pas là, il ne pouvait pas faire le sacrifice. Ce n'est pas possible. Il faut donc être présent pour cela. Vivant, actif, présent. Ça, c'est des bonnes résolutions. Ça, ce n'est pas moi qui la prends. Ça, c'est Dieu qui me la demande. Pas la même chose. Et pour le servir, tout simplement. Est-ce que Dieu mérite qu'on le serve? Un petit peu. Démontrez-le, alors. Prouvez-le. Et c'est quand vous serez là que vous le prouvez. C'est pas en le disant seulement. C'est en servant le Seigneur. Il n'y a pas qu'à l'Église qu'on le sert. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut le servir. Mais si je crois et si je dis oui à ça, il faut que je le fasse aussi dans ma vie. Vous verrez, les choses vont changer. Et une troisième chose que nous apprend Pierre, c'est que nous sommes des serviteurs au service de Dieu. Bien souvent, le chrétien se dit qu'il est serviteur, mais il est plutôt à son service à lui. Et de temps en temps, il va servir Dieu. Je suis serviteur au service de Dieu. Je suis sauvé. Avant, j'étais, comme on parle là du rachat, on était dans un parc avec le diable et avec l'esclavage du péché et de ces choses-là. Et Christ m'a racheté. Il m'a sorti de cela pour me mettre dans un autre parc. Pas pour que j'aille me barrer ou je ne sais pas. Il m'a mis dans un autre parc où justement maintenant je suis appelé à être serviteur de Dieu. La Bible nous dit qu'on est esclave de Christ. Je connais des gens qui n'aiment pas ce mot, mais on est esclave. Un esclave, il fait quoi? Quand le patron, il dit, il travaille, et qu'il dit, non, j'ai pas envie. Heureusement que Dieu n'est pas comme nos patrons, des fois. Mais il faut bien se souvenir qu'aujourd'hui, alors on est esclave et ami. Avant, on était esclave du diable, mais aujourd'hui, on est esclave de Dieu. Alors, parce que Dieu est tellement bon et compatissant, on se laisse aller. C'est ça le problème. Mais Dieu veut nous rappeler de temps en temps qu'on est à son service réellement, comme des esclaves, mais comme des amis aussi, comme des enfants qu'il aime profondément. Et la Bible nous dit qu'on doit avoir une vie de consécration. Dans Romains 12, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc déjà, le raisonnable, c'est de s'offrir pleinement à Dieu. En fait, notre vie ne nous appartient plus. Et le problème, c'est qu'on vit souvent en disant « C'est encore ma vie, je fais ce que je veux dans ma vie. » La Bible nous dit que ma vie ne nous appartient plus. Romains nous dit « Le chrétien s'offre à Christ comme un sacrifice vivant. Il se donne entièrement, parfaitement à Dieu. » Autrefois, quand on immolait une brebis, etc., on ne gardait pas la moitié pour soi. C'était l'ensemble qui brûlait. C'est exactement la même chose. L'idée du sacrifice est là. Je donne toute ma vie à Jésus-Christ. C'est là le culte logique que l'on devrait célébrer. Ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches qui est le culte que Dieu veut. Tout le monde peut le faire. Catholiques, témoins de Jéhovah, tout le monde le fait. Ils sont tous les dimanches là. Mais la différence, c'est que la Bible dit que moi, je dois m'offrir comme un culte, quelque part, à Christ, entièrement. Ça, c'est le vrai culte que Dieu attend. Le sacrificateur s'offre d'abord lui-même. Il aime bien offrir les autres, surtout en sacrifice. Hein. On aime bien, ah, t'as vu, il est jamais là, etc. Non, c'est lui-même qui s'offre. Et entièrement, totalement. Et ça, ça coûte très cher. Mais ça a coûté très cher aussi à Jésus-Christ pour que je puisse vivre comme cela, non ? Ma vie ne m'appartient pas, et notre vie, nous dit 1 Corinthiens 6, 19, appartient à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps, le corps c'est quoi ? C'est ça là, hein ? Votre visage, votre cœur, votre âme, tout ce qui est là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est, qui est en vous ? Ça on est d'accord, hein, Jésus habite en moi. Que vous avez reçu de Dieu, amen, gloire à Dieu, etc. Et que vous ne vous apparteniez point à vous-même. J'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir à ça. Parce que si la Bible dit vrai, finalement, ma vie ne m'appartient plus du tout. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus vivre des loisirs, ça ne veut pas dire que je ne peux plus avoir des... Mais on s'entend bien. À un moment, il faut quand même que je réfléchisse, est-ce que ma vie appartient vraiment à Dieu, ou alors j'en fais vraiment ce que j'ai envie. Et si vous posez la question, mettez la croix juste devant vous, Jésus a payé pour cette vie. Il a payé cher. Et à présent, à partir du moment que j'ai dit oui à Jésus-Christ pour le salut, il me dit « Tu m'appartiens, t'es à moi. Voilà. Je t'aime, mais t'es à moi. Voilà. Et j'ai tout fait pour cela. Vaut mieux être à lui qu'au diable, on est bien d'accord. Ou qu'à nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on ne va pas bien loin souvent. Et comme les sacrificateurs autrefois, on a un libre accès au sanctuaire. Quelque part, on a la chance, nous, en tant que chrétiens, de pouvoir se présenter devant Dieu. Chaque jour, je peux me présenter devant Dieu, chez moi, mais aussi à l'église. On a même accès au Saint des Saints. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas tous l'Ancien Testament, mais dans le tabernacle, il y avait un lieu saint où les sacrificateurs travaillaient, mais un lieu très saint où seul le chef, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, pouvait rentrer et le faisait une fois par an pour offrir le sacrifice pour le peuple en entier. Et il tremblait, à mon avis, parce que dans le Saint des Saints, il y avait la présence de Dieu. Vous imaginez être en face de Dieu. Clac, 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 clac. Mais aujourd'hui, et au travers de Jésus-Christ, nous pouvons, nous, entrer dans ce lieu parfaitement saint. Le temple, hein, le voile du temple a été déchiré quand Jésus est mort, et je peux accéder dans la présence de Dieu. Et donc, si je veux être un sacrificateur, je viens avec ma vie, et je viens dans ce lieu, et je l'offre tout simplement. Je confesse le nom de Dieu, et j'offre entièrement ma vie à Jésus-Christ. Pierre nous dit que c'est une vie nouvelle, mais aussi avec des responsabilités. Il y aurait énormément de choses à dire, mais on va résumer. La première, c'est l'intercession. Parce que le sacrificateur à l'époque, le premier travail qu'il avait, c'était d'intercéder en fait pour ces gens qui venaient avec leurs animaux à cause de leurs péchés, etc. Je suis appelé, moi, en tant que sacrificateur, à intercéder continuellement. C'est le devoir du chrétien, prier pour le salut des hommes et des serviteurs. Et si vous ne croyez pas, il y a une tonne de versets qui le disent. C'est un devoir, pas une option. Pas, on verra quand on a le temps, c'est un devoir. Vous savez, un jour, j'ai l'impression qu'on ne va pas se présenter devant Dieu. J'ai l'impression. Parce que notre manière de vivre, des fois, c'est comme si on n'allait pas rencontrer Dieu. Et qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut. Mais c'est un devoir, quelque part. Il ne faut pas être non plus légaliste, on est d'accord. Mais il y a un équilibre entre les deux. Entre se laisser aller et comprendre mon devoir de prier. Pas chez moi. Chez moi, mais aussi ici. Qu'il y ait une force, qu'il y ait une cohésion. Qu'il y ait un travail de ce corps sacerdotal en marche. C'est mon devoir. Comme les sacrificateurs autrefois, ils allaient vers le temple pour intercéder. Ils ne le faisaient pas chez eux, ils devaient se déplacer. Et justement, je pense que l'intercession, quand elle coûte quelque part, Dieu va en prendre plus plaisir, à mon avis, quand on prend le temps d'intercéder. Vous savez, Dieu autrefois, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Élie, qui était souverain sacrificateur, et ses fils, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils péchaient. Et ses fils qui ont péché, Dieu les a exterminés. Ça veut dire, alors que Dieu est gentil avec nous, ça veut dire que Dieu nous regarde le servir. Ils regardaient eux autrefois, alors ils étaient vraiment irrespectueux à un point, je comprends pourquoi Dieu s'est énervé, mais Dieu nous regarde de la même manière quand on le sert. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis le lundi suivant, parce que lui, il est enthousiaste. Il nous voit. Et il ne faut pas qu'on vive comme s'il ne nous voyait pas. Il nous voit. Et il va nous évaluer un jour dans ce service, dans notre manière d'avoir agi pour lui. Croyons pas que c'est rien. Le tribunal de Christ, moi, je le crains profondément. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre le salut. Mais il y a des récompenses. Je suis en face de Jésus et il va me dire « bon et fidèle serviteur » ou il va me dire « tu vas être sauvé comme au travers du feu parce que tu t'en fichais, en fait, tout simplement, de ce que j'ai fait pour toi. Où est-ce que j'en suis, moi, là-dedans ?» Est-ce que je suis prêt à aller devant Christ aujourd'hui et fier de ce que j'ai pu faire pour lui? Est-ce que j'ai assez fait pour lui? Est-ce que j'ai suffisamment travaillé pour lui? Grande question. Hein. En tout cas, c'est une bonne résolution. Deuxième travail et responsabilité, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Hein, c'est Paul qui en parle comme un service sacerdotal. Dans Romains 15, 16, il dit « Afin que les païens soient pour Dieu comme une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit de Dieu. » On peut, d'une certaine manière, par notre évangélisation, apporter ces païens en offrande. Ça fait partie du service sacerdotal que d'évangéliser, de témoigner à quiconque veut bien entendre. Tout chrétien doit témoigner de Jésus-Christ et partager sa foi. De toute façon, quand on est vraiment sauvé, on est heureux. Cheese. Vous êtes heureux d'être sauvé? Je le répète. Mais pourquoi vous le gardez pour vous? Vos collègues, là, ils sont perdus pour l'instant, la plupart. Moi, j'ai pensé la dernière fois, ça fait un an maintenant qu'ils sont passés. Pendant cette année-là, il y a des millions de personnes qui sont parties en enfer. Ça vous parle ou... Alors, c'est leur responsabilité, on ne va pas culpabiliser pour eux. Mais on a une année devant nous où Dieu nous appelle en tant que sacrificateurs, avec ce sacerdoce, de témoigner de Jésus-Christ. Et il nous a placé à un endroit où moi, je ne peux pas aller, exprès, pour que chacun se mette au travail. Après, s'ils ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Mais on ne pourra pas dire qu'on n'a pas dit les choses à ces personnes-là. Le chrétien est comme un sacrificateur, il porte la parole de vie, il est comme un flambeau. Alors, on connaît nos flambeaux, nos enfants, mais nous sommes aussi ces flambeaux-là. Nous brillons tout simplement dans ce monde de ténèbres. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans le désespoir, qui attendent que un peu de lumière. Et c'est peut-être nous, tout simplement, la lumière, et ensuite, évidemment, Jésus-Christ. Et on a cette chance de pouvoir leur apporter cette lumière. Et puis la troisième responsabilité, c'est la bienfaisance et la libéralité. L'offrande, c'est un sacrifice. Alors, ce n'est pas un sacrifice dans le sens où je dois prendre de l'argent de mon porte-monnaie pour le donner à Jésus, puisqu'il faut bien se souvenir que c'est lui qui l'a mis dans mon porte-monnaie. N'oublions pas. Hein. C'est lui qui me donne du travail, ou pas. Il a des temps où on ne comprend pas toujours, mais c'est lui qui me donne mon travail. Et s'il veut demain vous l'enlever, il enlèvera, pour qu'on comprenne vraiment. Hein. Mais l'offrande, c'est un sacrifice, et il est dit dans l'hébreu, auquel Dieu prend plaisir. J'ai envie de faire plaisir à Dieu, je vais aller à l'église, je vais prier de temps en temps, etc. L'offrande est aussi quelque chose qui fait plaisir. Souvent, on parle de l'adoration. Mais quand on donne quelque chose à Dieu qui nous appartient, qu'on voudrait garder, mais qu'on donne à Dieu, c'est un sacrifice, mais c'est aussi une façon d'adorer Dieu, tout simplement. C'est un sacrifice que Dieu accepte, nous dit Philippiens 4, 18, et qui lui est agréable. Quand ça me coûte, quelque part, parce que c'est ce que disait David dans Chronique... mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter, c'est-à-dire il voulait acheter quelque chose, sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste ou un sacrifice qui ne me coûte rien. Et là, il y a une grande leçon, même s'il ne parle pas directement de l'offrande aujourd'hui, mais une offrande, ça doit coûter quelque chose. Donner un euro, excusez-moi, ça ne coûte rien du tout à nous. Rien du tout. Alors, évidemment, la Bible nous dit de ne pas nous ruiner non plus. On est déséquilibré. Mais quelqu'un disait, Dieu ne regarde pas trop à ce qu'on donne, il regarde à ce qu'on garde. Pas la même chose. Alors, il ne s'agit pas de nous ruiner, on est bien d'accord. Mais souvenez-vous, cette veuve, elle a donné tout. Et Jésus l'a mis en exemple, tout simplement. Souvent, ces gens-là, à l'époque, donnaient leur superflu. Et nous-mêmes, peut-être, en regardant vraiment au fond de nos cœurs, nous donnons peut-être juste le superflu. Pas que dans l'offrande, je dirais, financière, mais peut-être dans l'offrande de mon corps, de l'offrande de mon service, dans l'offrande globale. Hein. Dieu sait ce que je garde pour moi. Et un jour, il me le dira. Peut-être du vivant, ça sera peut-être mieux pour qu'il me reprenne. Mais quand je serai en face de lui, il me le dira et il ne se gênera pas. Des fois, le pasteur n'ose pas dire les choses parce qu'il a peur de me blesser, parce qu'il a peur de... Mais il le dira en face, clairement, droitement. Ça fait peur, on y réfléchit. Et Pierre dit encore, une vie nouvelle avec des dons. Hein. Les sacrificateurs autrefois avec trois fonctions essentielles, ils étaient là pour servir, pour enseigner, alors pas tout le monde évidemment, et pour consulter Dieu, ça ce n'est plus vraiment notre rôle, mais quelque part on hérite indirectement de ces fonctions. Je suis appelé à servir Dieu, il y a suffisamment de passages dans la Bible, je suis appelé à enseigner pour ceux que Dieu a choisis, à consulter aussi Dieu dans le sens où on va intercéder, prier, etc. Et si vous allez dans les épîtres, il y a énormément de recommandations à l'encontre des chrétiens, hein, et il dit par exemple « Exhortez-vous les uns les autres ». On va faire ça cette année, on s'exhorte les uns les autres, on va s'encourager les uns les autres, un petit SMS, un petit Facebook, un petit je sais pas quoi. Il dit aussi « Instruisez-vous », c'est-à-dire que je dois apprendre de Christ un peu plus, hein, beaucoup plus que l'année dernière. On est pas, hein, pour moi, normalement, on doit aller de plus en plus en haut. Dans Romains 14, il dit « Édifiez-vous ». Est-ce que les chrétiens sont vraiment édifiés en Christ? Est-ce que vraiment la doctrine est dans leur sang, j'ai envie de dire? Parce qu'on en a besoin en pratique, dans notre vie. Quatrième chose, porter les fardeaux les uns des autres. Qu'est-ce qui arrive à mon voisin en ce moment? Si je vous posais la question, est-ce que vous savez ce qui arrive à votre voisin en ce moment? Peut-être pas. Alors comment je vais porter les fardeaux des uns et des autres? C'est-à-dire qu'on doit apprendre à se connaître les uns les autres. Prendre le temps d'apprendre à se connaître pour ensuite pouvoir porter ses fardeaux et prier. Dans Ephésiens, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ». Alors quand j'ai envie de chanter un psaume, des hymnes, des cantiques, c'est-à-dire qu'il y a la joie dans mon cœur et il y a de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu aussi. Et puis « Ayez soin les uns des autres ». Ça, c'est encore une attention vis-à-vis des autres, savoir où ils en sont, comment ça va, etc. Et ça, c'est que quelques-unes de toutes les recommandations que nous donne la Bible. Est-ce qu'on peut s'ennuyer à l'Église ? On vous ennuie, là, alors. On ne peut pas s'ennuyer. Je ne peux pas dire que je ne sais pas quoi faire dans l'Église. C'est impossible. Là, vous mentez, en fait. Quand vous dites que je ne sais pas quoi faire dans l'Église, c'est que vous mentez. Vous trichez avec Dieu, quelque part, avec votre sacerdoce. Les épîtres abondent en recommandations et on ne peut pas dire qu'on va s'ennuyer dans l'Église. Et il y a plusieurs dons, et on va le dire en début d'année, puisque c'est un peu la tradition, mais la Bible nous rappelle que nous avons des dons. Parce que nous sommes sacrificateurs. Jésus est mort pour me sauver, mais il est mort pour me donner une qualification, un service, un don à mettre en place pour le Seigneur. Vous ne savez pas votre don ? Est-ce que vous cherchez ? Est-ce que c'est une lutte dans la prière ? Vraiment. Hein, parce que des fois, on prie pour avoir de l'argent, pour avoir un salaire ou un travail, et là, on transpire dans la prière. Mais pour mon don, pour mon service, est-ce que je transpire pour ça tous les jours ? On verra l'année prochaine quand le pasteur redira la même chose. Ce serait bien qu'on transpire un peu pour cela et qu'on trouve notre place dans l'Église. C'est bien souvent parce qu'on n'a pas notre place dans l'Église qu'on s'ennuie dans l'Église aussi. C'est ça qui est dommage. Ça va des fois de pair. Hein. Mais prenez le temps et puis si vous ne savez pas, ben, demandez à Rémi, demandez à moi, demandez aux uns et aux autres. Qu'est-ce que je pourrais faire dans l'Église? On va vous trouver du boulot, vous inquiétez pas. Paul exhorte chaque membre à servir les autres avec le don reçu. Le don, ce n'est pas pour moi, hein. Il est pour mon prochain. Comme je dis souvent, si je prêchais à mon lapin là-haut, ça ne servirait pas à vous, en tout cas. Et puis mon lapin, il me regarderait bizarre, de toute façon. Mais le don, il est là pour les autres. Je suis là pour servir le prochain. Et Dieu accorde des dons pour accomplir justement notre sacerdoce, notre famille spirituelle au travail, avec les dons des uns et des autres. La question, c'est de savoir où est-ce que je suis là-dedans, où est ma place. Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre au travail pour le Seigneur? En tant que sacrificateur, je suis serviteur de Dieu avant tout. Et là, j'insiste sur le « avant tout ». Je ne suis pas l'ouvrier de mon patron, je ne suis pas l'esclave de ma maison, de ma voiture, je suis serviteur de Dieu. Quand on y réfléchit un peu, ça devrait nous bousculer dans notre vie, profondément. Et je suis non seulement serviteur de Dieu avant tout, et je fais un service qui est extrêmement sérieux. Venir à l'église, c'est pas juste venir à l'église comme on irait au cinéma. C'est pas ma relation avec Dieu, c'est pas une relation comme j'aurais peut-être dans un couple où c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, de profond avec Dieu. Et ça, le Seigneur veut nous le rappeler ce matin. Pour terminer, les croyants de la Nouvelle Alliance avaient un sacerdoce... Non, pardon, les croyants de la Nouvelle Alliance ont un sacerdoce à accomplir aujourd'hui. C'est notre responsabilité en tant que personne sauvée, en tant que chrétien. L'Église, vous, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est vous, hein, selon la Bible. Vous êtes une maison spirituelle qui doit être active avec toutes ses pierres, et non pas une Église avec la moitié des pierres qui manquent, qui viennent de temps en temps quand ça leur chante, hein, ou quand ils ne sont pas trop fatigués, ou je ne sais pas. Je ne veux plus de courant d'air. Et Dieu ne veut plus de courant d'air non plus. Et vous verrez que la maison sera beaucoup plus solide s'il n'y a plus de courant d'air, si toutes les briques ont leur place. Vous allez voir le dynamisme de cette maison, si chacun a compris son sacerdoce, se met à se consacrer pour le Seigneur. Que cette nouvelle année, pour nous qui sommes sacrificateurs, ne soit pas une année d'excuses. Ah, les excuses, on est des pros, là. On a tous des... J'ai des excuses, hein, croyez-moi, je me parle aussi à moi, là. Hein. Croyez pas. On a tous des excuses, et ça, on sait les travailler, les excuses. On sait les peaufiner, les excuses, pour ne pas servir. Ça, on sait le faire. Si on pouvait faire l'inverse. Hein. Parce que je pense qu'à force de s'excuser devant Dieu, je me moque aussi de mon sacerdoce. Et je me moque de Dieu quelque part. Hein. Dieu me voit, donc je ne peux pas tricher avec lui. Il sait très bien que des fois, mes excuses ne sont pas valables. Si je suis mort, évidemment, je ne peux plus servir, on est d'accord. Si j'ai un cancer, je suis à l'hôpital, on est bien d'accord. Mais les excuses qu'on a, des fois, ne sont pas forcément valables devant Dieu. Hein. Chaque pierre, c'est-à-dire vous, moi, devrait devenir vivante, mais vraiment vivante. Et parce qu'elle est vivante, elle va devenir active. Ah, j'ai envie de me mettre à travailler pour le Seigneur. Et parce qu'elle est active, elle se veut aussi régulière, pas de temps en temps, pas un peu, régulière et fidèle. Et avec, dans le cœur, l'idée d'être une pierre vraiment sérieuse devant Dieu, très sérieuse. Vous savez, Jésus a été extrêmement sérieux qu'il nous a offert sa vie pour nous. Je crois qu'il faut être extrêmement sérieux aussi à l'égard de lui. Et c'est ça l'adorer tout simplement, c'est ça le remercier, c'est ça avoir de la reconnaissance pour lui dans notre vie. Ne nous moquons pas de Dieu. Jésus a donné sa vie, son sang a coulé sur la croix pour que je puisse faire partie de ce sacerdoce, pour que je puisse travailler pour Jésus-Christ. Mon sacerdoce, notre sacerdoce, en tant que sacrificateur, est notre priorité. Vous savez, souvent on dit, on perd un temps fou, beaucoup de choses, parce qu'on croit que Dieu ne va pas s'en occuper. Si je mets Christ en priorité, Dieu s'occupe du reste. Et on court après le reste bien souvent, parce qu'on croit qu'on doit le faire, parce qu'on croit qu'on a besoin de le faire. Mais celui qui met son sacerdoce en priorité, qui met Dieu en priorité, toutes ces choses-là, Dieu va lui accorder sans effort parfois. C'est toute la nuance. On se fatigue à faire un tas de choses que Dieu veut nous donner tout simplement, mais à condition évidemment qu'il soit ma priorité. Seigneur, nous voulons nous arrêter en ce début d'année pour d'abord contempler ton œuvre magistrale à la croix pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as pardonné nos péchés, merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur, et merci parce que nous pouvons partager l'éternité. Mais Seigneur, ton plan pour nous ne s'arrêtait pas là, et comme nous l'avons parlé, évoqué, tu as un sacerdoce, un travail, une mission, en tant que sacrificateur pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous connais et nous ne pouvons pas nous cacher devant toi et nous ne pouvons que rougir bien souvent parce que nous pouvons faire mieux pour toi et surtout parce que tu le mérites. Seigneur, nous savons être tellement professionnels dans notre travail quotidien. Apprends-nous à devenir des professionnels de Jésus-Christ, des gens qui cherchent avec la même ambition à te plaire, à te gagner, Seigneur, à te partager et à vraiment t'adorer, Seigneur. Nous avons un an devant nous, Seigneur, et nous voulons te la remettre, que tu transformes notre cœur, que tu chasses toutes nos excuses, Seigneur, et que nous puissions te faire tout simplement plaisir en offrant nos corps, en offrant notre vie, en offrant notre âme totalement à sacrifice pour toi, Seigneur. Tu le mérites et nous voulons te glorifier comme cela. En Jésus-Christ. Amen.